Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut Achille. Merci de prendre du temps aujourd'hui pour échanger autour du DevOps. Donc on va parler un peu de cette pratique, de comment ça s'intègre aussi avec le monde du produit, qui est un sujet que je traite évidemment plus sur ce podcast. Mais l'idée, c'est voilà de faire communiquer un peu aussi le monde de la tech et du produit avec ce podcast. Et donc d'où l'intérêt d'échanger autour de ces pratiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter puis nous dire ce que tu fais?
Oui, merci de m'avoir invité sur ton podcast, Thierry. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Achille Monga. Je suis actuellement architecte cloud et DevOps, un ancien développeur back-end qui a suivi la mouvance du DevOps il y a quelques années. Et du coup, je suis tombé également dans cette mouvance-là.
Très clair. Du coup, par rapport à qu'est-ce que c'est que ce métier-là pour toi, comment tu le définirais en termes, tu vois, des missions derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que de faire du DevOps?
Ouais. Déjà, le DevOps en base zéro, je dirais que c'est pas un métier, en fait. C'est d'abord une philosophie. C'est, si on veut faire l'analogie avec le produit ou la gestion de projet, on peut faire facilement l'analogie avec l'agilité. Donc, le DevOps, en fait, c'est une façon de penser. Donc, c'est un état d'esprit, je dirais, qui a pour but d'amener l'agilité qu'il y a dans le développement logiciel sur la partie opérationnelle, donc la partie déploiement, monitoring des applications.
Donc. Ok. Donc par rapport à cette première définition autour de ça, comment tu d'un point de vue très concret sur on va prendre un logiciel type logiciel SaaS, qui se déploie dans le cloud, donc il n'y a pas besoin d'être installé physiquement sur des machines pour pouvoir être utilisé. Là, où est-ce que tu positionnes le DevOps, en fait, dans la construction de logiciels comme ça?
Ok. Je positionnerais le DevOps bien en amont du logiciel final que l'utilisateur peut commencer à manipuler. Le DevOps, en fait, c'est, comme je disais, c'est une philosophie qui va faire, qui, à partir des différentes techniques qui sont appliquées, va permettre, en fait, à ce que l'utilisateur final ait un logiciel le plus stable possible et qui répond à ses attentes. Donc, quand je dis le plus stable possible, c'est que si, par exemple, un utilisateur détecte une erreur sur le logiciel final à l'utilisation, il faudrait que, en fait, grâce au DevOps, le correctif qui sera appliqué au logiciel va se faire dans un temps très court, grâce à plusieurs techniques. Donc, parfois même, lorsque l'équipe est mature, l'utilisateur final n'aura pas le temps de se rendre compte qu'il y a eu une erreur. Il y aura déjà tout un ensemble de mécanismes qui ont été mis en place pour détecter cette erreur-là et pouvoir la corriger le plus rapidement possible.
Et donc, là-dessus, premier point, je trouve hyper intéressant sur ce sujet justement de bugs qui sont même pas visibles, en fait, de l'utilisateur, même pas visibles, du coup, si je prends la casquette plus produit de l'équipe produit parfois, parce que côté tech, ça a été géré quasiment automatiquement grâce à différentes mises en place de monitoring et derrière de correctifs, de patch à la volée. Pour comprendre, du coup, comment ça s'est mis en place, en fait. Ouais, comment tu peux mettre en place
je parlais des techniques tout à l'heure. Yes. Donc, le DevOps, c'est une philosophie qui est appuyée par cette technique. Donc, généralement, quand on parle de DevOps, la première technique, c'est l'automatisation. Donc, il faudrait que la plupart des actions qui sont mises en place sur le logiciel pour le déployer soient automatisées. Donc, du coup, quand on parle de DevOps, la première base, c'est automatiser toutes les actions manuelles de release de l'application. Donc, cette automatisation-là passe par la mise en place de ce qu'on appelle des pipelines CI/CD. CI/CD pour Continuous Integration et Continuous Deployment ou Delivery, en fonction de comment l'application est réalisée. Donc, c'est le premier socle. Donc, automatiser tout le déploiement de l'application via des pipelines CI/CD. Et du coup, dans ces pipelines-là qui sont le socle de l'approche DevOps, on peut mettre en place plusieurs techniques aussi. Donc, comme pipeline, il faut le voir exactement comme dans une usine de voiture, par exemple. Il y a des chaînes pour assembler la voiture. C'est pareil lorsqu'on parle de DevOps et d'automatisation de release de l'application. Donc, dans les pipelines, c'est où va se jouer une bonne partie de l'approche DevOps. Donc, dans ces pipelines-là, on va mettre en place ce qu'on appelle des tests d'intégration continue. Donc, c'est vrai que ces tests-là dépendent bien évidemment de ceux qui ont développé l'application. Ils doivent mettre en place des tests robustes. Donc, du coup, dans la pipeline, on va pouvoir les déclencher de façon automatique lorsque le code change. À côté de ça aussi, on peut mettre en place toutes les techniques pour checker des erreurs ou des virus dans le code ou dans les librairies qui sont utilisées par l'application. Donc, on va faire ce qu'on appelle des scans, de l'analyse statique de code ou de l'analyse dynamique de code.
Donc déjà, sur cette première phase, c'est-à-dire que le socle technique des suites CI/CD qui permettent de contrôler en fait le code à l'intégration et ensuite de déployer de manière automatique.
Ouais.
Le premier point, je pense, qui est important à comprendre, c'est sur cette phase de CI, d'intégration en continu. Ouais. Donc, tu as parlé de deux choses. Tu as parlé des tests d'intégration qu'on pourrait relier aussi avant même les tests unitaires également à ce niveau-là et de l'analyse statique de code. Donc, ces deux choses, par exemple, c'est des choses qui pourraient être mises en place pour bien comprendre, vont nécessiter un travail en amont. C'est-à-dire les tests, ils viennent pas tout seuls. Il faut les écrire,
il faut les
coder.
Il faut qu'ils soient à jour, qu'ils soient versionnés. C'est aussi un truc que j'ai pas parlé. Là, le versionning, c'est capital. Versionner le code, versionner les tests. Généralement, ce que l'on fait dans la pratique, c'est que le code et les tests sont dans le même repository, du coup. Donc, tout est bien versionné. Et les tests doivent évoluer en même temps que le code. Et sur ça, il y a également ce qu'on appelle une approche pour développer les logiciels et prendre en compte les tests, le TDD, Test Driven Development, qui va permettre, en fait, lorsqu'il est bien appliqué, cette pratique-là, va permettre en fait de développer un code qui est soutenu par des tests à côté.
Là-dessus, donc tu touches du doigt le TDD qui est en fait une façon de penser un peu inverse, c'est-à-dire que tu écris tes tests avant d'écrire ton code, ou en tout cas, tu écris ton code pour que les tests, et ensuite tu écris ton code pour qu'ils répondent aux tests.
Ouais,
je sais pas ça. Toi comment si tu devais compléter là, ce que je viens de dire, peut-être plus dedans, mais.
Oui, c'est vrai que le TDD fait beaucoup de débats dans la communauté, comment il doit être vraiment utilisé et appliqué. D'autres vont dire que c'est du test force. Mais c'est pas vraiment de mon point de vue, hein. C'est parce que, comme je te dis, c'est un truc assez clivant dans la communauté. Il n'y a pas une définition claire et nette. Donc, je dirais que le TDD, c'est construire un logiciel testable pour moi.
OK.
Peu importe que les tests viennent avant ou après le code, pourvu que ton code que tu produis puisse être testable.
Très 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 clair. Donc par rapport, pour revenir donc sur la phase donc d'écriture des tests et d'écriture également de configuration, plus on va dire des outils d'analyse statique de code, pour prendre la casquette là, je reprends une casquette plus produit pour comprendre le temps aussi nécessaire aux équipes techniques pour mettre en place ces bonnes pratiques. Si tu devais donner un peu un ordre de grandeur, tu vois, entre j'ai une fonctionnalité à développer qui va me prendre par exemple 2 semaines de travail de mon équipe, comment, par rapport à ces 2 semaines de travail, donc sachant que j'ai pas encore en place tout cet environnement, quel est le temps nécessaire à mettre en place un environnement dans un premier temps CI/CD et dans un deuxième temps à coder les tests qui vont correspondre à ces nouvelles fonctionnalités qui devraient prendre en théorie 2 semaines à être implémentées.
Généralement, et aussi basé sur mon expérience d'anciens développeurs, généralement, c'est une fonctionnalité à développer. Il fallait rajouter 50% si on voulait avoir une bonne couverture de tests déjà. Donc, si par exemple la fonctionnalité... Et en fait, lorsqu'on chiffrait, que ce soit en points ou en journée, on travaillait, généralement, le développement de la fonctionnalité plus les tests, ça fait, si tu dois développer la fonctionnalité en un jour, tu dois mettre un jour de test aussi pour avoir un code assez propre.
Ok, ouais, donc ça fait x2 par rapport oui, à un... Oui. Donc...
Bon, ça dépend aussi de la seniorité de la personne qui développe. Donc, un développeur senior pourra mettre moins de temps, mais c'est généralement sur cette gamme de temps-là. Donc, les tests plus la fonctionnalité, généralement, ouais, c'est x2.
Et donc, ce qu'on peut voir, donc déjà le premier point là-dessus, les gains, tu les as mentionnés au tout début, mm-hmm. mais pour comprendre aussi les gains qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire mm-hmm. que grâce à ces tests, tu vas pouvoir anticiper des bugs avant même qu'ils n'arrivent.
C'est ça, oui.
Et surtout éviter les régressions lorsque tu fais des évolutions.
Exactement, parce que moi, j'ai déjà eu, dans le début de ma carrière, j'ai déjà eu intervenu dans des projets où il n'y avait pas ces tests. Et le développeur se retrouve à avoir peur de faire une simple modification et de casser l'existant. Pourtant, quand tu arrives dans un projet où il y a des tests, en toi, en tant que développeur, c'est la plage. Tu es à l'aise. Tu sais que les modifications que tu vas faire dans le code, il n'y aura potentiellement pas de régression parce qu'il y a des tests qui valident des fonctionnalités. Et si ta modification casse une fonctionnalité, tu le sais au commit directement, par exemple.
Yes, donc ça, pour bien imager ce que mm-hmm. tu viens de dire, quand tu vas faire une modification de code qui va avoir un impact en fait sur l'existant, mm-hmm. Cette modification de code, ton code est versionné, c'est-à-dire que tu suis les évolutions, tu vas commit, donc tu vas dire j'ai fait une modification sur ce bout de code là, mm-hmm. et automatiquement quand tu as configuré donc ton pipeline d'intégration continue, ce commit va être vérifié le pipeline, oui. Il va aller du coup refaire tourner les tests précédents qui avaient été écrits et se rendre compte là que effectivement ça il y a peut-être un breaking change et donc te forcer à ne pas te laisser en fait fusionner donc merger ton commit sur la branche tant que t'as pas corrigé le bug.
Exactement, c'est exactement ça.
Et là effectivement il y a vraiment un gain derrière la maintenabilité dans le temps de ce qu'on construit.
Sur la robustesse aussi de l'application du coup. Donc si on est sûr qu'on a des tests pertinents sur l'application, on est sûr que notre projet, que l'application fonctionne, on est plus enclin de rajouter des nouvelles features, parce que j'ai déjà vu chez certains clients où l'application fonctionne, on ne veut pas toucher, sachant qu'il y a des nouvelles features, on a peur de rajouter des nouvelles features parce qu'il n'y a pas des tests qui valident déjà ces features qui étaient existantes.
Donc là, ça me fait penser. Donc, enfin, ce que tu viens de dire, il y a deux sujets que j'aimerais aborder par rapport mm-hmm. à ça. Tu viens de parler donc chez certains clients. Du coup, tu arrives et on te dit non, touche pas parce que ça marche, mais on ne sait pas ce qui se passe si tu touches à ça. Mm-hmm. Ça, c'est du vécu et c'est vrai que c'est un vécu quand même de beaucoup de monde dans la tech parce qu'en réalité, entre les nouveaux produits concrets versus la maintenance corrective ou évolutive, la majeure partie du travail, en tout cas côté tech, c'est très orienté sur de la maintenance corrective évolutive.
Oui, c'est ça.
Et donc sur des produits existants. Donc j'aimerais dans un second temps on peut aller sur ce sujet-là, c'est-à-dire que pour ces contextes-là, mm-hmm. c'est-à-dire t'as déjà une très grosse base de code existante, mm-hmm. Pour autant il va falloir faire des évolutions, faire de la maintenance. Mm-hmm. Tu n'as malheureusement pas encore tes tests unitaires, t'as mm-hmm. pas la capa de temps et de ressources pour aller tout réécrire. Mm-hmm. Et en même temps il va falloir faire des évolutions. Donc c'est mm-hmm. quoi un peu toi les bonnes pratiques, les stratégies que t'as pu voir mettre en place ou des choses qui marchent pour ouais. réussir à faire le mieux du moins bien entre guillemets
ouais.
et quand même pouvoir commencer à mettre en place des bouts de bonnes pratiques sans ouais. rentrer dans le faut tout faire hyper carré.
Ouais, je vois très bien et c'est une problématique que j'ai eue chez un client et ce que j'ai mis en place c'était de au fur et à mesure d'essayer déjà de documenter l'existant parce que parfois tu arrives chez le client il y a pas la documentation. Donc c'est de documenter l'existant et commencer à intégrer par partie en fait de l'application, donc généralement isoler, essayer de voir dans l'application les parties les moins critiques, et c'est sur cette partie-là de commencer à faire une mise à jour du coup. Donc sur cette partie moins critique, commencer à réécrire des tests d'intégration pour cette partie-là, et ainsi de suite. Donc avancer par petits bouts, ne pas, vu qu'on a un existant qui est généralement qui fonctionne, donc avancer par petits bouts et essayer de rajouter de nouveaux tests à ces parties qui existaient déjà.
Et du coup, quand tu vas cibler, donc ce que tu dis, c'est que les tests que tu vas rajouter au départ, cibler les parties qui sont effectivement les qui ont le qui si jamais elles devaient être cassées, ça a moins d'impact sur le produit.
C'est ça. Oui.
Ok. C'est intéressant parce que j'aurais pensé au contraire du coup d'aller tout de suite chercher les parties importantes. Mais pour toi, pourquoi du coup tu considères que vaut mieux faire dans cet
angle-là? Déjà, c'est pour limiter le risque. Parce que si tu as il y a une application qui est en production qui est utilisée par des utilisateurs finaux, l'idéal ce serait pas de casser en fait leur existant, parce que ça va aussi entraîner des changements de leur côté. Donc l'idéal c'est de partir de plus des petits bouts et ainsi de suite jusqu'à ce que tu arrives à couvrir ton application.
Ok. Très très clair. Est-ce que du coup par rapport à ça, comment tu le fais rentrer pour tu vois d'autres là pour le coup d'autres devs qui pourraient écouter, comment tu le fais rentrer dans une roadmap existante ce travail là en fait, parce que c'est pas toujours évident de réussir à évangéliser pour dire là faudrait qu'on fasse quand même qu'on prenne un peu de temps pour écrire du test unitaire sur cette partie comment qu'est-ce que toi t'as pu vivre comme situation ou en tout cas essayer d'éduquer les clients à justement la pertinence de mettre en place ce type de test sur du code existant qui fonctionne déjà, parce que moi je me mets posture client, je pourrais dire en fait mon application elle fonctionne, je te demande pas de faire deux semaines juste pour faire du test sur un truc où à la fin je verrai rien de nouveau. Je préférerais juste que au bout des deux semaines j'ai quelque chose de nouveau quoi.
Oui, bien généralement ça c'est sur ce cas-là, c'est lorsque le client il rencontre des pain points, il voit en fait que il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Et l'idée, c'est généralement de lui faire comprendre qu'il faut, par exemple, ajouter 20% de temps pour faire du test. Et généralement aussi avoir l'appui de ton PO pour pouvoir discuter avec le client pour qu'on essaye de rajouter déjà un petit temps pour pouvoir écrire ces tests-là.
Ok, ouais, donc aller chercher du support aussi à ce niveau-là.
Ouais, très, c'est ça.
Très clair. Du coup, le point auquel ça me faisait penser tout à l'heure quand tu parlais de ce travail d'écriture de couverture des tests, c'est dans un contexte très très early. Donc tu vas avoir une boîte qui est en train de chercher son marché, qui va travailler sur un logiciel SaaS, on va dire B2B, quelque chose d'assez commun dans le milieu des startups. Et du coup, la volonté, tu vois, d'aller très vite pour tester des choses. Et donc si tu dis à un fondateur en fait là on estime la charge à une semaine si on le fait à l'arrache versus deux semaines si on le fait bien, puisqu'on fait x2 pour y ajouter du test, et je parle même pas de bien faire le code, je parle juste de mettre une couverture de ce test propre derrière, comment trouver un équilibre là-dedans? C'est-à-dire que on pourrait se dire en fait ça vaut pas la peine, enfin on pourrait se dire, même moi je me le dis, c'est-à-dire que sur quelque chose qui peut-être aura une durée de vie de 2 mois, pourquoi s'embêter à aller faire un code ultra bien couvert d'un point de vue test pour une pseudo maintenance qui n'arrivera jamais, puisqu'en fait c'est un code qu'on va acheter dans 2 mois versus tester des choses et itérer rapidement. Donc comment toi
de mon expérience chaque fois qu'on a dit qu'on va acheter le code dans 2 mois, c'est devenu en fait l'application finale, c'est devenu le cœur de l'application finale. J'ai rarement vu chez un client où on a dit on va partir sur un code sale sur 2 mois et ensuite on va recommencer à zéro. Généralement, le client, lui, il est content quand tu vas lui dire « Oui, on va faire vite, tu auras un truc qui va sortir. » Mais dans la réalité, généralement, ce petit truc qui sort, c'est sur lui qu'on commence à itérer pour pouvoir avoir le produit final. Et là, par exemple, sur ma dernière mission, on a eu le même cas où le client voulait une fonctionnalité rapidement pour faire une démo avec son client à lui. Et il voulait un truc jetable, littéralement. Il dit, c'était ses propres propos. Je veux un truc jetable pour aller vite. Mais on lui a dit non, ça fait pas comme ça que ça marche. En plus, le client lui-même, déjà, il avait des soucis de trésorerie et il voulait allouer du temps pour faire un truc jetable et ensuite recommencer à zéro pour pouvoir faire un truc plus propre. Et on lui a démontré qu'en fait, en faisant un truc jetable, tu vas déjà cramer du budget pour faire ce truc jetable là, et ensuite il faudra encore débloquer du budget pour recommencer à faire un truc beaucoup plus propre.
Donc pour toi la situation du jetable elle est jamais bonne,
elle est jamais bonne, toujours partir sur des bonnes bases pas forcément mettre dès le départ ceinture, bretelles, tout ça.
Donc là-dedans, j'aimerais bien que tu creuses ça, c'est-à-dire que, plutôt que mettre ceinture et bretelles, comme tu dis, quels sont alors du coup dans cette base de se dire non, on part pas sur quelque chose de jetable. En revanche, on va pouvoir nuancer.
Oui, bien sûr. Il y a toujours.
À quel niveau du coup tu pourrais mettre ces curseurs, tu vois?
Ouais, ces curseurs-là, je peux les mettre au niveau déjà de la couverture des tests. T'es pas forcément obligé d'avoir un code couvert à 100% parce qu'il y a aussi des développeurs qui sont fans du couverture de test à 100% alors que ça veut pas dire grand chose. Tu peux juste tester le cœur de ton application et ça se fait rapidement. Ça va pas te faire, si je dis aussi, si le développeur est quelqu'un d'un peu senior, il saura en fait isoler la partie critique de l'application à tester et ensuite, parti sur cette base-là. On n'est pas obligé d'avoir un code couvert 100% pour qu'il soit testable et maintenable.
Yes, là-dessus, donc sur cette couverture de test, comment donc t'identifierais clairement les à l'inverse de quand tu arrives sur un code existant où tu vas essayer de mettre du test sur les fonctionnalités mineures, quand tu es sur un nouveau code et que tu veux limiter la charge représentée par l'écriture de test, là tu vas aller cibler l'écriture de test sur les fonctionnalités majeures.
Oui, c'est ça. Il faut cibler les tests sur les fonctionnalités majeures et les fonctionnalités, littéralement les fonctionnalités majeures, les fonctionnalités qui sont qui sont la colonne vertébrale du produit. C'est sur eux qu'il faudra mettre un peu plus d'accent. Les autres parties, on peut évoluer sans elles.
Très, très clair. Donc là, on a fait un bon tour sur la partie CI, donc sur la partie intégration continue, c'est-à-dire avant que ton application se trouve en production et avant même, avant qu'elle se trouve en production. C'est-à-dire que ça, ce dont on vient de parler permet de prévenir de bugs en amont.
Oui, c'est ça.
Mais tu prenais l'exemple au début, donc de la philosophie autour du DevOps qui va permettre de résoudre des situations parfois avant même qu'elles aient été découvertes par les utilisateurs finaux ou même d'autres équipes en interne, l'équipe produit par exemple. Donc ça, c'est des situations qui peuvent intervenir aussi en aval quand l'application est en production. Et entre après donc la partie CI, il y a la partie CD, continuous deployment ou continuous delivery en fonction de comment. Donc là-dessus, sur la partie CD, quelles sont les bonnes pratiques, parce que moi, de mon expérience, ce que je vois surtout, c'est juste qu'il faut être capable de réussir à déployer de manière assez simple, de mettre en place une structure par exemple sur un tag spécifique sur un commit, tu sais que c'est ça qui va déclencher le déploiement, peut-être après toi, c'est quoi un peu là-dessus les recommandations, les bonnes pratiques?
Comme tu l'as dit, essayer de faire au plus simple. Déjà, bien choisir la plateforme cible où sera déployée l'application. Ça, c'est aussi un élément clé en fonction du trafic. Il faut prendre cela en compte. Est-ce qu'on aura des releases assez rapide, entre deux releases, ce genre de choses, il faut les prendre en compte et essayer d'avoir une chaîne CD la plus simple possible. Et aujourd'hui, dans l'approche DevOps, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Ou juste le plus simple, c'est des scripts bash qui vont aller déployer sur la plateforme cible.
Là-dessus, du coup, tu parles de plateforme cible, ça me fait penser aux plateformes. Donc, on parle souvent d'environnement. Donc, il y a l'environnement des développeurs sur leur machine. Oui. Il y a l'environnement d'intégration qu'on peut appeler QT, qui va être là où on intègre le code. Et ensuite, tu vas avoir un environnement de prod parfois il y a la pré-prod même entre les deux. Combien d'environnements déjà, on va dire, quels sont un peu les projets que tu trouves qui ont le mieux fonctionné? Il y avait déjà combien d'environnements intermédiaires entre la machine du développeur qui travaille à la journée jusqu'à l'application qui est dans les mains de l'utilisateur final sur le
généralement sur le cloud. On passe sur trois environnements. Okay. Donc, généralement, on a trois environnements. On a un environnement de dev, un environnement de pré-prod, de pré-production ou QA, et un environnement de production. Okay. Et généralement, les pipelines de CD, on essaye de partir du dev, ensuite de la pré-production vers la production.
Et au niveau du déclenchement de ces pipelines-là, du coup, tu vas avoir de l'automatique à tous les étages ou tu vas essayer de... Ou par exemple, tu vois, moi, ce que j'ai pu vivre, c'était que la partie production, ont déclenché uniquement à la main. C'est-à-dire oui, que le déploiement en production ouais, n'était pas fait de manière automatique.
Généralement, sur la partie production, on fait un déploiement manuel, généralement. Donc, okay. Ouais, sur 90% des projets sur lesquels je travaille, c'était ça. Sur les autres environnements, c'était automatisé. Mais pour réaliser un prod, il fallait aller juste cliquer sur un bouton pour réaliser l'application.
Et donc ça, ça permet donc de limiter les erreurs humaines, hein, pour comprendre aussi l'intérêt de ça, au-delà du temps gagné, c'est-à-dire que tu vas éviter, bah, ah oui, j'ai oublié de configurer telle variable ou j'ai oublié de changer tel fichier, parce que c'est vu ça. Que c'est tout automatisé, bah, tout se fait, à partir du moment où c'est bien configuré, ça se fait sans risque humain à ce niveau-là. En revanche, ça couvre pas encore la problématique de, bah, j'ai un bug en prod. Et j'ai réussi à le corriger avant même qu'il ait été détecté.
Oui, toute la partie monitoring, parce que c'est également une partie super, super importante dans l'approche de DevOps. Il y a la partie monitoring de l'application. Et ça se passe via d'autres outils. Ces outils-là qui vont permettre, par exemple, d'alerter lorsqu'il y a, par exemple, un log d'erreur qui remonte, ou par exemple, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des pics de consommation de ressources matérielles, ça peut déclencher en fait une alerte plutôt à l'équipe qui se charge de suivre l'application.
Et ça, toi, pour toi, donc tu le mets dans l'approche DevOps.
Cette partie monitoring. Logging et monitoring généralement. Okay. Ces deux parties-là également sont vitales dans l'approche DevOps.
Ok. Et donc là, pareil sur des bonnes pratiques, sur qu'est-ce qui est un peu le standard, on va dire, pour toi, qui fonctionne bien sur toujours dans une typologie produit, tu vois, SaaS, B2B. Mm-hmm. Est-ce que tu vas te reposer sur du système de monitoring existant sur ta plateforme cloud, par exemple, qui va héberger ton application? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu trouves qui fonctionne bien? Parce que un des travers en fait autour du monitoring, mm-hmm. Alors la pertinence, elle est pas à prouver, puisque évidemment ça te permet de remonter des choses en temps réel et du coup de détecter beaucoup de problématiques. En revanche, la question qui se pose quand tu mets en place ce type de process, c'est souvent jusqu'à où je pousse les logs, jusqu'à où je pousse l'information que je remonte,
ouais.
Parce que des fois trop d'infos c'est pas bon. En même temps, parfois quand t'as certains bugs, il te manque des infos pour aller investiguer qu'est-ce qui s'est passé. Où est-ce que tu mets, tu vois, le curseur là-dessus?
Généralement, en ce qui concerne déjà les logs, il faut avoir des logs qui sont structurés. Et du coup, pour avoir des logs structurés, c'est utiliser du JSON, par exemple, pour pouvoir encoder ta chaîne de caractères de log, pas juste du plain text. Parce qu'avec du JSON, il y a des outils, en fait, qui vont te permettre de facilement parser ton JSON et de pouvoir, par exemple, détecter facilement qu'il y a eu une erreur. Donc, c'est avoir des logs structurés. Et en ce qui concerne la quantité de logs, c'est à l'équipe de pouvoir définir, en fait, par exemple, en production, on veut juste des logs qui génèrent au niveau erreur, par exemple. Donc, et aussi, avoir un outil qui va nous permettre de requêter facilement ces logs-là. Aujourd'hui, on a plein de stacks techniques qui permettent de le faire. Et aussi, si par exemple, l'application est déployée chez un cloud provider, généralement, ils viennent aussi, ces cloud providers-là proposent déjà des services managés, tout fait, qui ont ces features-là.
Très, très clair. Du coup, sur ce sujet du log, ça me fait revenir aux développeurs. Mm-hmm. C'est-à-dire que, là, pour loguer de manière structurée, ça veut dire qu'aussi dans le code, il faut que ça soit logué de manière structurée.
C'est vrai que ça revient, c'est aux développeurs, bien sûr, de pouvoir bien construire sa chaîne de log, d'utiliser la bonne bibliothèque pour faire ces instructions de log.
Et ça, pareil, sur un travail de développement, pour toi, est-ce que c'est une valeur, est-ce que c'est quelque chose, en fait, qu'il faut considérer de la même manière que l'écriture des tests, ou est-ce que c'est juste que ça doit faire partie des bonnes pratiques de développement, et donc ça doit être intégré juste dans la charge de base d'un ticket?
Ouais, pour moi, ça, en fait, c'est l'écriture du code. Donc, c'est normalement transparent, sur la partie estimation.
Yes. Très, très clair là-dessus. Du coup, maintenant, ça me fait penser, là, je vais volontairement challenger un peu le rôle après tu, du DevOps, c'est-à-dire tu as expliqué au début que c'était une philosophie au-delà d'être juste un métier.
Un métier, ouais.
Et là, on vient de voir quand même dans pas, sur pas mal de points. Qu'il y avait pas mal de tâches qui retombaient côté développeur en fait
oui,
pour pouvoir
sûr,
avoir du coup cette chaîne DevOps bien en place. Du coup, pour toi, quel est le rôle des profils DevOps qu'on peut voir dans certaines boîtes? Est-ce que c'est en fait un rôle intermédiaire qui vient, enfin on va dire éphémère entre guillemets, qui doit venir le temps de tout mettre en place, mais ensuite quand ça roule en soi, t'as pas besoin de DevOps engineer parce que tout est déjà en place et que normalement ça devrait tourner, ou est-ce qu'il faut toujours avoir quelqu'un qui va permettre de maintenir tout ça? C'est quoi un peu toi ta vision là-dessus sur ce
ouais,
métier-là?
Pour moi, ça va dépendre de la typologie du produit. Là, on a parlé d'un produit en mode SaaS, donc une application. Là, je dirais que généralement, sur ce type de produit-là, le rôle de DevOps, en fait, peut être facilement pris par un développeur, en fait, qui est un peu curieux. Par exemple, c'est mon cas, je me dis, je suis DevOps. En fait, je suis développeur à la base. Et du coup, cette technique pour automatiser le déploiement de mon code, je l'ai appris du coup de facto parce que je développe une application, je veux savoir la déployer, je veux que mon client ait l'application lorsqu'il se connecte à sa page web. Donc du coup, naturellement, tu apprends les techniques qui te permettent en fait de pouvoir facilement déployer l'application et tout ça. Mais il y a également d'un autre côté ceux qui s'occupent des serveurs qui hébergent nos applications, ceux qui étaient anciennement des admin sys, qui eux également commencent également à être dans cette mouvance DevOps là pour automatiser par exemple tous les scripts qui sont nécessaires pour configurer les serveurs qui hébergent nos applications qu'on déploie. C'est eux qui vont monitorer également ces serveurs. Donc ça, je dirais que ça dépend. Si tu es dans une squad produit qui développe un logiciel SaaS qui est hébergé sur un cloud provider, sachant qu'aujourd'hui les cloud providers proposent des services qu'on appelle des services managés, donc où il n'y a pas forcément besoin d'ops pour opérer la plateforme. Là, le DevOps, en fait, ça peut être membre de l'équipe de dev qui naturellement s'est à chercher, s'est documenté, s'est auto-formé généralement. Mais du côté gestion des serveurs, c'est beaucoup plus c'est vraiment un rôle dédié parce que il y a toute cette partie administration des systèmes des serveurs qui entre en jeu aussi.
Yes, ouais, là-dessus c'est bien que tu fasses la distinction entre les deux, et effectivement il y a un monde entre les applications SaaS que l'on va pouvoir déployer sur des AWS, des Azure de chez Microsoft ou Google ou autre, ou OVH, enfin ou Scaleway pour être.
Et encore, je peux dire aussi, si on, par exemple, on déploie sur du cloud, généralement il faut aussi, c'est vrai que là potentiellement il faut un rôle à plein temps de DevOps pour gérer toute cette partie cloud là, parce que aussi avec le cloud, ça entraîne plein de nouvelles déjà de nouvelles missions à réaliser, parce que instancier par exemple une VM sur un cloud provider pour déployer une application SaaS, ça implique que la personne, le DevOps, sache comment manipuler ce cloud provider là. Généralement, oui, là, il faut vraiment une personne dédiée dans l'équipe qui va permettre de gérer cet aspect cloud. Parce qu'il y a aussi toute la partie finance du cloud qui entre en jeu.
Tout à fait, ouais. Et tu fais bien de le mentionner là-dessus. C'est-à-dire que le cloud, on peut avoir tendance à penser que c'est moins cher, mais en réalité, effectivement, la donnée, quand tu veux la récupérer, ça peut coûter vite très cher.
Oui.
Ça coûte pas cher à l'envoyer, mais quand tu veux la rechercher.
Aussi, on a parlé des serveurs dans le cloud. Il faut les monitorer pour checker la facture à la fin du mois
Yes. Non, c'est très, très, très bon
que
point.
Que ce soit les serveurs ou même les services managés, parce qu'il y a des services managés, par exemple, out of box pour faire du logging, du monitoring, qui sont là, mais ces services ont un coût qu'il faut monitorer aussi, et parfois il faut faire des ajustements côté cloud pour pouvoir baisser la facture client.
Yes, ouais. Très bon point là-dessus. Et du coup, pour revenir sur l'autre aspect, donc là, ce que t'expliques, c'est que même sur ces cloud managers, en fait, effectivement, il y a beaucoup d'abstraction en termes de complexité, mais il y a des nouveaux métiers qui sont créés
oui,
de facto parce qu'il y a beaucoup de configurations à faire pour pas ensuite se retrouver avec une facture beaucoup plus salée que attendue.
C'est vrai que dans les missions, on va te parler de DevOps, mais je dirais plus un ingénieur, un cloud engineer, celui qui va manipuler le cloud et permettre de l'utiliser de façon la plus efficace possible.
Et après, donc, pour toi, la partie DevOps va, par contre, reste un rôle à part entière dans le cas des services plus IT infra d'une boîte qui va avoir des serveurs on-premise.
Oui, là, c'est, aujourd'hui, on parle même plus, je pense pas qu'on parle plus trop d'admin sys, on parle de DevOps, c'est parce que, toute cette partie automatisation, là, également rentrée côté admin sys. Donc, aujourd'hui, de leur côté, les admin sys, ils font pas mal de scripts, que ce soit des scripts Terraform ou des scripts Ansible pour automatiser la gestion de leur serveur. Et aussi, ces scripts-là sont versionnés. Donc c'est de l'usine logicielle ramenée aussi côté admin sys.
Très, très, très clair là-dessus. Et pour toi, c'est quoi, du coup, l'évolution de ce métier-là? Dans les deux aspects, sur la partie peut-être cloud manager, donc comme tu disais, c'est plus un engineer, cloud engineer que DevOps, mais il y a quand même toute la philo derrière, versus dans le cas d'infrastructure où il y a beaucoup de serveurs on-premise, beaucoup de choses à monitorer, et où du coup l'ancien administrateur système est devenu un peu le DevOps. C'est quoi pour toi l'évolution de ces deux profils dans les prochaines années avec l'évolution des technos aussi?
L'évolution des deux profils, pour moi, je pense que ce sont des profils qui vont émerger par la suite, parce que on se rend compte que aujourd'hui, que ce soit côté cloud ou côté admin sys, la plupart du temps, on a à peu près des problématiques similaires. Donc, les problématiques de monitoring, comme on disait tout à l'heure, les problématiques de déploiement de serveurs. Parce que côté cloud, aujourd'hui, on fait beaucoup de déploiement de machines virtuelles qui sont des serveurs qu'il faut pouvoir configurer à la volée, qu'il faut pouvoir monitorer. Donc, pour moi, l'évolution, ce serait un rôle hybride entre le cloud manager et le on-premise. Ça sera une personne qui est capable de faire de joindre les deux mondes, du coup. Parce qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de cloud hybride. Et plein de ces cloud providers là sont en train de pousser des solutions qui vont permettre facilement aux administrateurs de faire ces administrations là en mode hybride, que ce soit côté cloud, que ce soit côté on-premise, et les faire communiquer ensemble.
Hyper, hyper intéressant là-dessus. Moi, ça fait écho à pas mal de discussions que j'ai pu avoir avec d'autres de mes pairs. Et ça me fait penser, du coup, sur, pour toi, ça me fait rebondir sur une autre question, plutôt pour clarifier ce que t'entends par cloud hybride. Moi, ma compréhension que j'en ai, c'est que on est en train de revenir un petit peu en arrière sur de tout mettre sur le cloud, c'est-à-dire de se rendre compte que parfois ça coûte très cher de mettre sur le cloud et c'est pas nécessaire. Et du coup, maintenant, on a de plus en plus des organisations qui font un peu des deux, c'est-à-dire que certaines données, qu'elles soient stratégiques ou très importantes et besoin d'accès fréquent, vont rester sur des serveurs physiques chez soi parce que ça va coûter moins cher de maintenir ces serveurs-là. Et l'usage du cloud va être fait peut-être de manière plus sporadique.
Pour certaines applications, pour certains workloads. Oui, c'est vrai que c'est une tendance qui est en train d'être, qui émerge aujourd'hui. Et c'est vrai que tous les principaux fondeurs de cloud aujourd'hui proposent en fait des outils clés en main qui vont permettre en fait à l'administrateur de pouvoir facilement à la fois gérer son parc sur le cloud et en on-premise. Donc c'est vraiment une mouvance qui est en train qui a vraiment le vent en poupe actuellement, où on ne dit plus migrez tous vers le cloud, fermez vos serveurs, c'est trop cher, mais plutôt utilisez les deux mondes.
Ok, très clair. Mais je pense qu'on a fait du coup un bon tour autour du sujet de DevOps. Est-ce qu'il y a des points en particulier avant d'aller vers les questions de fin d'épisode que t'aimerais mettre en avant, dont tu trouves qu'on n'a pas assez parlé?
Pour moi, c'est, si on veut parler de la philosophie du DevOps, je dirais que aujourd'hui c'est incontournable. Si tu veux faire un produit qui aura du succès, il faut que tes équipes, en fait, intègrent cette approche DevOps-là dès le début, pour que ça soit plus facile, ou qu'on essaye d'intégrer ces différentes pratiques du DevOps dans la chaîne de création de valeur de l'application.
Très très clair, yes. Ouais, sur bah je pense que sur l'importance de du DevOps aujourd'hui, oui, ça devient moi ce que je trouve ça devient effectivement incontournable. Après pour un peu aussi prendre de la hauteur par rapport à ce que tu disais, en fonction des produits, ça peut juste vouloir dire parler justement plus de philosophie DevOps et faire en sorte que son équipe de dev fasse bien les choses de ce point de vue-là, sans rentrer dans un surcoût additionnel d'une personne nécessaire en plus quoi.
Oui.
Mais par contre de déjà commencer à poser des premières briques avec comme tu le disais, bah s'il faut rationaliser au début, se concentrer sur les choses les plus importantes, les plus impactantes avant d'avoir un panel complet.
Oui. Et je dirais pour une application. Pour moi, ce serait déjà consolider sa pipeline CI/CD. Donc, parce que on sait qu'aujourd'hui les applications, ça sort ça, en fonction de du marché. Il faut être en avant-garde. Donc, c'est consolider sa pipeline CI/CD qui va permettre de facilement réaliser les nouvelles versions de l'application. Une fois que ça c'est fait, ensuite rajouter tous les autres techniques du DevOps, le monitoring, le logging. Donc déjà se concentrer sur cette partie là de pipeline CI/CD, une fois qu'elle est faite, rajouter d'autres concepts dessus.
Top, très 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 clair. Du coup, pour aller vers mes deux questions de fin, donc la première c'est, est-ce que tu as une position forte, un sujet clivant sur lequel tu te retrouves en général en désaccord avec tes pairs?
Oui, c'est l'utilisation des, on a parlé tout à l'heure de cloud, et aujourd'hui sur les principaux cloud providers, on peut instancer des machines virtuelles ou on peut faire ce qu'on appelle du serverless, c'est-à-dire que tu es payé. Aujourd'hui les cloud providers parlent de pay as you go, donc tu n'es par exemple facturé qu'à la requête. Et pour moi, c'est là par exemple dans ma dernière mission, j'ai eu une grosse discussion pour passer en serverless. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le serverless parce que tu ne sais pas forcément ce qui se passe derrière. Mais pour moi, pour un logiciel qui pour une application qui va être lancée et pour laquelle on a fait le choix d'aller vers du cloud, mais où on ne sait pas encore quelle sera la charge, le nombre d'utilisateurs qui va consommer l'application. Pour moi, c'est au lieu de passer sur des VM, l'idéal c'est de passer sur du serverless et le plus tôt possible faire ce qu'on appelle des containers Docker. Ce Docker aujourd'hui, c'est la technologie, on peut dire la technologie phare pour réaliser des applications. Et avec du serverless, par exemple sur du Google, tu es capable, si ton application ne reçoit pas des requêtes, de payer quasiment zéro à la fin du mois. Alors que si tu instancies des serveurs où tu vas déployer ton application en mode classique, tu vas payer le coût CPU, tu vas payer le coût des disques. Sans que oui, tu peux mettre en place des politiques où tu peux éteindre tes serveurs à certaines heures de la nuit ou de la journée en fonction du trafic. Mais pour moi, une approche serverless sur ce genre d'application est l'idéal.
Ok, ouais, hyper assez intéressant là-dessus sur l'aspect serverless. Le coût en fait, quand tu payes à la requête, est-ce que donc je vois l'intérêt, c'est-à-dire que si t'as pas de requête, ben en fait tu vas pas payer.
Oui, il y a ça.
Mais moi je vois le risque aussi que si d'un coup t'as un pic, tu vas payer très cher.
Ça dépend du service que tu vas utiliser. Donc il faut, par exemple, quand je prends le cas de Google, aujourd'hui leur offre serverless pour faire du compute, donc pour faire du calcul, est la mieux adaptée du marché. Ça s'appelle Cloud Run. Et avec ce service-là, il te suffit juste d'avoir ton application sous forme d'image Docker et automatiquement, tu as du scaling automatique, tu as du logging et du monitoring déjà installé, ce qui fait que même pour quelqu'un qui veut lancer une application rapidement, t'as pas besoin forcément de quelqu'un qui est d'un DevOps chevronné pour arriver à le faire. Donc, tu peux facilement aller sur le marché avec ton application en suivant quelques bonnes pratiques de DevOps
Okay.
Donc, il y a ce gain-là déjà que tu peux avoir côté si tu utilises du serverless et aussi si tu, par exemple, tu utilises des bases de données aussi serverless managées. Je prends toujours le cas de chez Google. Aussi, tu auras les coûts. Généralement, je prends le cas de Google parce que je maîtrise bien. Les coûts sont assez limités. Par exemple, sur du cloud run, tu es littéralement payé, tu payes littéralement zéro pour le million de requêtes.
Ok, donc, yes.
Tu vois, il y a quand même, pour avoir un million de requêtes, il y a quand même, il faut avoir du trafic sur ton site. Donc, ça dépend. Je comprends bien ton point de vue. Parfois, le serverless se retrouve à être beaucoup plus coûteux que si tu avais, par exemple, instancié tes propres machines directement. Mais pour moi, pour un produit qui est en early stage et qui veut prendre des parts du marché, ce genre d'approche-là est l'idéal. Sachant que si tu es sur des conteneurs, tu peux facilement switcher quand tu te rends compte que la charge devient importante. Tu peux maintenant passer sur des machines virtuelles qui sont managées sur un Kubernetes, par exemple.
Ouais, donc à suivre, et comme ça, tu peux éviter de tomber
oui,
après.
Oui, c'est dire, ça. Et du coup, d'où l'idée d'avoir un cloud engineer qui maîtrise un peu de FinOps pour pouvoir voir et savoir quand
faire
passer
la base, ouais.
sur des technologies un peu plus robustes, si je peux dire.
Très, très clair. Du coup, pour aller vers ma dernière question, c'est un peu les choses qui te nourrissent intellectuellement. Comment toi, tu t'inspires et pour progresser dans ta pratique professionnelle?
Pour progresser, c'est vrai que moi, je suis un fervent défenseur de Google. Donc, du coup, c'est beaucoup de lectures sur leur blog technique. Donc, ils ont plein de ressources qu'ils mettent à disposition. Des labs aussi pour pouvoir bien manipuler les services qu'ils proposent. Donc beaucoup aussi pas mal de veille technologique en suivant des podcasts ou en suivant des conférences comme DevOps par exemple qui a lieu chaque année où il y a plein de nouvelles thématiques qui apparaissent.
Ok, top. Ben je mettrai les liens du coup dans les notes.
Les liens, ouais.
Et puis je te remercie encore pour ton temps et ton partage, Achille.
Merci à toi de m'avoir invité.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.